Retour sur la foire exposition de Sisteron qui se déroulait du 3 au 6 octobre dernier. Beaucoup d'animations et un parrain plein de tonus, Philippe Candeloro. Fréquence Mistral vous emporte au cœur des allées de la foire avec au micro de Chris Alessandri les réactions de Philippe Candeloro, de quelques exposants, les ateliers également du centre de loisirs, l'hypnotiseur Shark, Michael Stunt et Delphine pour le show moto et Loris de Strict Motion pour le spectacle freestyle de vélo trial. Le tout en musique avec la fanfare du Boumas.
Philippe Candeloro, depuis ce matin, les gens se bousculent. Comment vous ressortez de la foire exposition de Sisteron avec ce côté très sympa que vous avez arboré depuis ce matin ?
En tout cas, je ne me sens pas fatigué. C'est déjà bon signe. Ça veut dire que les gens étaient plutôt agréables. Ce n'était pas la bousculade comme on pourrait le présenter. En fait, il y a du monde. C'est plutôt intéressant. Moi, je préfère être actif que passif, donc ça me va très bien. Je préfère quand c'est un petit peu speed comme ça parce que on voit pas le temps passer et puis on peut servir le maximum de gens, quoi. Je suis comme un vendeur de petits moments de plaisir à faire une photo, une dédicace, donc je suis très heureux d'être venu.
On voit bien que physiquement vous êtes capable de faire un backfit, même ici à Sisteron si on vous le demandait.
Ouais, alors au sol ça devient un peu compliqué avec les pattes en pied et un peu de vitesse sur la glace, ça va, je le fais encore le saut périlleux, mais après au sol maintenant on perd de la puissance musculaire, donc forcément je prendrai pas de risque comme ça aujourd'hui.
Et avec sa patine à Tokyo, vous prenez des risques ou pas ? Parce que visiblement, avec Nelson, vous vous éclatez sur scène.
Alors, c'est effectivement à la pièce, sa patine à Tokyo. C'est plus Nelson qui prend des risques à faire une pièce de théâtre avec moi plutôt que l'inverse. Mais on se marre bien, on s'amuse bien. Et puis, ce qui est toujours plaisant, c'est ce que je vis aujourd'hui. En fait, c'est le fait de voir des gens qui sont contents de nous voir. Voilà, on va en province, les gens, ils nous jugent pas, ils nous accueillent. Ils ont envie de nous voir, ils ont envie de nous entendre et grâce au théâtre, on retrouve un petit peu nos deux personnalités comme on était au début de nos commentaires sportifs où on se sentait un petit peu plus libre de dire ce qu'on voulait. Voilà.
Et la fille du marchand de sable, alors là, nous sommes dans le rêve, dans votre passion, dans votre, j'allais dire, votre vie.
Là, c'est ma vie, c'est le spectacle de ma femme que je produis et que je suis très fier parce que elle fait un travail vraiment extraordinaire à plusieurs points de vue parce qu'elle écrit le spectacle, elle le met en scène, elle le chorégraphie, elle gère toute l'équipe. Moi, je suis que la partie un petit peu immergée de l'iceberg, mais derrière, il y a un énorme boulot. Et puis, par chance, je vais aussi un petit peu encore patinoter à Gap quand on va y être le 10 et le 11 décembre prochain pour effectivement la fille du marchand de sable, qui est vraiment un très, très bon moment de plaisir, de partage, d'évasion pour toute tranche d'âge de 7 à 97 ans.
Le Candeloro, c'est resté dans la tête ?
J'ai l'impression, en tous les cas, et merci au public qui continue à me gratifier de ce que j'ai pu leur procurer comme plaisir il y a plus de 30 ans.
Philippe Candeloro, nous quittons la foire. Votre petit au revoir au Sisteronais sur la foire exposition.
Écoutez, un grand merci à tous les exposants qui, j'espère, vont passer 3-4 jours ici à Sisteron avec les meilleures prises de rendez-vous, prises de contact, prises de carnet de commandes. Et puis, j'espère, un de ces jours, vous croiser toutes et tous à un autre endroit, à un autre moment. Et puis, n'oubliez pas, donc, le marchand de sable le 10 et le 11 décembre prochain du côté de Gap. On sera très heureux que vous puissiez assister à un très beau spectacle sur glace. Voilà. Merci à tous et puis bonne foire à tous.
Je suis avec le président de Rétropassion. Alors Rétropassion, ce sont des véhicules magnifiques que vous avez ici en exposition. Rétropassion, peut-être deux petits mots de présentation sur l'association de passionnés que vous êtes.
Oui, alors je vais rajouter, il ne faut quand même pas oublier, c'est Sisteron Rétropassion, en trois mots. Parce que depuis, on enlève Sisteron, et je crois qu'il faut que le mot Sisteron reste. C'est le club qui a à peu près, club ou association, qui a à peu près une trentaine d'années, voire peut-être plus, et qui s'appelle Sisteron Rétropassion. Voilà, on rend bien le mot à Sisteron, cette magnifique ville. Alors tout d'abord, avant de me présenter et de présenter l'association, je voudrais profiter de ces quelques secondes pour remercier tout ce personnel, tous ces bénévoles, tous ceux qui ont organisé encore une fois cette magnifique, magnifique foire qui, sous le soleil en plus resplendissant, on voit arriver des tas de personnes qui viennent saluer nos voitures, manger des crêpes, profiter de cette magnifique foire. Et merci encore à tout le monde, à tous ces organisateurs et bénévoles. Alors Sisteron Rétropassion, 30 et quelques années d'existence, un club qui à Sisteron regroupe à peu près 50 adhérents. 50 adhérents, si on fait une petite moyenne de 3 voitures par adhérent, ça fait un club de 150 voitures anciennes. 150 voitures anciennes à entretenir, à faire briller, à faire marcher, puisque nous faisons des sorties pratiquement tout le, des fois. Alors, le printemps, on commence en février, on a une première sortie que nous appelons la première sortie, c'est les Mimosas. On va visiter les mimosas au bord de mer, la corniche de l'Esterel, Saint-Tropez, etc. On part 2-3 jours et on se régale. Ensuite, on fait des sorties du week-end, du dimanche, on va manger dans les restaurants aux alentours. Ça, c'est la petite sortie dominicale. On part le matin, on va balader dans le Champsaur, on va balader du côté de Banan, du côté de Digne, etc., Gréoux. Voilà. Ensuite, quoi vous dire? Si ce n'est que de venir peut-être aussi le troisième dimanche de chaque mois, nous organisons une exposition sur le parking de Super U Intersport à Sisteron Nord. Là, il y a des fois 40-50 voitures qui viennent, puisque souvent le club de Fort-Calquier se joint à nous pour venir aussi participer de cette magnifique exposition. Et je voudrais rajouter un truc, c'est que n'oubliez pas demain, octobre rose, nous allons faire des tours de voitures à tout le monde, aux exposants, aux enfants accompagnés. Il faut qu'il y ait ou le papa ou la maman. Bien sûr, nous allons récompenser également tous ces jeunes bénévoles du service de sécurité de l'école de Sisteron. Donc j'ai demandé à leur professeur des écoles de venir me voir demain et on va leur offrir un tour de voiture autour de Sisteron à ces jeunes bénévoles qui ont aussi travailler après leur futur métier de la sécurité.
Alors là, nous sommes dans des véhicules, mais pas n'importe quel véhicule. Vous allez nous présenter un peu ce que vous avez aujourd'hui, parce que c'est magnifique, on traverse le temps.
Voilà, vous avez vu qu'il y avait des véhicules hier. Alors aujourd'hui, on est un petit peu plus sur la voiture de course, puisque vous avez une Datsun, vous avez une BMW, vous avez une R5 Turbo GT. Bon, des voitures, la R5, c'est un petit peu plus ancien. Bien sûr, la BMW que nous avons là, c'est déjà un jeune garagiste qui vient d'ouvrir à Sisteron, dans la zone légèrement au-dessus des abattoirs, qui est un superbe garage de réparation de voitures anciennes, mais aussi, bien sûr, sa passion, les voitures de rallye, puisqu'il fait des rallyes de côte, des courses de côte, etc. Et puis la fameuse Datsun de notre ami Escartefig, alors Jules, son fils, et Rémi, son papa, qui était là ce matin. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, vous avez... Alors, c'est une Ami 6. Une Ami 6, on l'appelle un peu Z. Vous voyez, Z, c'est cette arrière coupée, là, en forme de Z, qui a été fabriquée pas très, très longtemps. Alors, beaucoup me disent, elle est jolie, cette voiture. En 72, elle a été élue la voiture la plus moche du parking automobile français. La pauvre. Mais pourtant, elle est un petit peu jolie. Je ne dis pas ça parce que c'est la mienne. Mais c'est une Ami 6, voilà, la Ami 6 Z, la berline de 1964. Et qui marche bien, puisque la dernière sortie que j'ai faite avec cette voiture, on est allé du côté de Sarlat, dans les petits villages, etc. Et on a fait avec, et d'autres voitures du club, puisqu'on était 10 voitures, et on a fait 1600 km en une dizaine de jours, tranquillement, sur les belles routes de France.
Il faut dire que les suspensions, c'est déjà, bon, c'est Citroën, c'était entre la 2 chevaux et la DS presque.
La DS, voilà, tout à fait. Voilà. Et peut-être que l'an prochain, vous aurez une DS sur ce parking, parce que je suis en train d'en restaurer une, et je pense qu'elle sera... Et demain, il y aura une DS, puisque à Octobre Rose, mes amis vont venir avec encore un autre groupe de voitures, donc DS, Coccinelle, une Floride cabriolet, c'est un pléonasme, une Floride, puisque la Floride est que cabriolet. Et donc, vous aurez aussi demain un magnifique plateau de voitures. Et là, j'insiste, pour faire des tours de ville autour de Sisteron que nous allons vous offrir. Alors, vous offrir, c'est un bien grand mot. On aura la petite tirelire d'Octobre Rose pour que les gens puissent mettre 1 euro, 2 euros, 5 euros pour cette magnifique cause qui est la lutte contre le cancer du sein. Alors la voiture, la bétaillère là, oui. C'est la voiture de notre ami, c'est une B15 1937, il a trouvé comme ça, dans son jus, dans une grange, bon il a refait un petit peu de peinture, il a révisé le moteur et elle parcourt la route, elle siège en ce moment, son garage, c'est à Mison et elle se balade entre Mison et Sisteron, voilà.
Et de l'autre côté, alors là, on est vraiment sur la voiture qui fascine les visiteurs.
Voilà, il y a la Corvette américaine, la mythique de nombreux films américains qu'on voit un petit peu partout. Et puis la petite voiture de vin verte, là, toute sympathique, deux places. Elle est magnifique, cette Fiat. Et pour dire, cette Fiat que tout le monde regarde, dit « Ouais, mais ça ne doit pas aller loin ». attendez, avec son propriétaire et moi avec une autre voiture et d'autres, on est allé faire les lacs italiens avec. On a fait le tour d'Italie avec.
Un peu serré à l'intérieur peut-être.
Un peu serré à l'intérieur, mais ça fait rien. Le plaisir est de, comme me disait un collègue tout à l'heure, c'est l'odeur, c'est un petit peu d'essence. Bon, des fois ça sent un peu l'essence. Il y a la carburation, le tube d'échappement derrière. Des fois il y a un petit peu de fumée qui vient devant parce que mais ça sent bon, ça sent si bon ces voitures anciennes d'époque, des années qu'on appelait le début des congés payés quand même. Toutes ces voitures-là ont servi pour les congés payés. Les gens traversaient la France, venaient au bord de mer, venaient à Saint-Tropez, venaient dans la côte des Landes, sur les Landes, à Biarritz, etc. Ils traversaient toute la France avec des 4 chevaux, des dauphines, des 4L, etc.
La mécanique, elle a une âme d'après vous ?
Ah oui, tout à fait. Elle a une âme, elle a une vie, elle a une odeur. Elle a une odeur. Vous rentrez dans une 403, il y a une odeur. Vous rentrez dans une AMI6, il y a une odeur. Et vous allez dans l'R5, ben, il y a un peu moins d'odeur parce qu'elle est trop, elle est un peu plus moderne, celle-là. Voilà. Mais il y a toujours cette odeur d'essence, ce petit, comment dirais-je, ce petit... On a un petit peu peur des fois, on se dit, est-ce qu'on va arriver au bout ? Est-ce qu'on va arriver à Biarritz ? Est-ce qu'on va arriver à Barcelonnette ? On est allé à Barcelonnette il n'y a pas très longtemps. On a fait l'an dernier les 6 cols des Alpes, là. La Caillole, le Restefond, le machin, on est allé jusqu'au Turini, on a fini au bord de mer à côté de Nice et on est revenu parce qu'on n'en avait pas assez. Et après on a fait la Tinée, etc. en 7 jours, voilà, avec nos vieilles voitures qui montent et qui descendent. Hein. Il n'y a pas de souci, il y a de bons freins.
Ils sont là pour notre plaisir. Merci à Rétropassion que nous retrouvons, vous l'avez entendu, non seulement toute la journée, mais sur Octobre Rose avec des baptêmes. Ce sera un sacré moment. Merci Président et merci à toute l'équipe. Mesdames et messieurs, je suis sur le stand de CIM Immobilier. Et quand on dit CIM Immobilier, tout de suite, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe.
Eh bien écoutez, oui, tout à fait. Sur le stand de CIM Immobilier, il y a toujours quelque chose. Ben, pour la simple et bonne raison que CIM Immobilier, c'est la convivialité, la proximité. C'est un esprit familial. Donc comme dans toutes les familles, eh ben, on aime boire le café. On aime jouer aussi à certains jeux et gagner plein de petites choses. Et surtout, le plus important, c'est que là, nous avons des nouveautés au niveau des biens aujourd'hui que nous mettons en avant, et ça pendant tout le week-end.
Quoi ? On peut savoir ?
Allez, on va vous donner quelques indices. On a des nouvelles maisons qui sont sorties, exprès pour la foire exposition, que ce soit sur Sisteron, sur Peruy, et sur toutes les communes qu'on a aux alentours, que ce soit pour les agences que nous avons, qui sont sur Pépin, et sur la Ragne, voilà, pas mal de biens, de nouveaux biens sortis.
Alors, CIM Immobilier, vous êtes des habitués à la foire exposition de Sisteron, vous avez un beau stand, vous faites beaucoup d'animations sur votre stand aussi. Pour vous, ça représente quoi, la foire exposition de Sisteron ?
Ah ben nous, la foire exposition, justement, c'est un atout primordial hein, pour la ville de Sisteron, parce qu'on est impliqué hein, dans la ville de Sisteron. Et ce qu'on veut, justement, nous, c'est la proximité. Donc, on vient en avant de nos clients hein, et des personnes qui ne nous connaissent pas. Pour qu'elles apprennent à nous connaître. Donc, que ce soit des propriétaires, des bailleurs, que ce soit des locataires, des acquéreurs, ou même des personnes qui voudraient venir travailler dans l'immobilier. Voilà, il y a un mot, c'est CIM Immobilier, c'est le stand 46. Donc, venez, vous voulez jouer, gagner plein, on a plein de lots à gagner. Venez jouer, mais surtout, venez nous rencontrer, on a plein de choses à vous dire.
Alors, encore un petit mot, simplement sur le retour après, une fois la foire terminée. Est-ce que vous avez un retour de cette foire ? Est-ce que ça a servi à quelque chose ?
Alors oui, eh bien, justement, on en parlait. On disait que la foire de l'année dernière, on avait encore des contacts qui venaient par rapport à la foire de l'an dernier. Donc, on voit notre clientèle grandir jour après jour par les actions qu'on fait sur Sisteron.
Un stand pas banal, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous laisse le soin de le présenter.
Alors c'est le stand funéraire de la marque PFG. Alors c'est vrai qu'il n'est pas banal et en général la réaction des gens qui passent c'est « Oh là là, le plus tard possible !» Comme si le fait de venir discuter avec nous ou se poser quelques questions, ça allait les faire mourir. Alors l'avantage du stand, et nous sommes là pour ça, c'est justement pour dédramatiser quelque part la mort ou parler de sa propre mort, envisager sa propre mort. Et nous sommes là parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas oser pousser la porte d'une agence, alors qu'ici, s'il y a des questions, on va y répondre beaucoup plus facilement, avec le sourire et légèreté. Et puis quand on parle de la mort et que nous ne sommes pas justement en deuil, la parole est quand même beaucoup plus libre. Alors que quand on doit rentrer dans une agence et que nous sommes confrontés à la perte d'un être proche, on se sent démuni et noyé. Cette foire nous permet d'avoir une approche complètement différente.
Quelles sont les réactions alors des personnes qui viennent sur le stand? Et en même temps, il y avait Philippe Candeloro qui était là, c'est le parrain de la foire exposition, et j'ai vu qu'il s'est attardé sur le stand. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a demandé si on faisait des contrats sur 40 ans. Alors bon, à condition de le faire peut-être. Mais non, les contrats, le maximum, c'est 20 ans. Pour le paiement, hein, je parle. Après, les gens sont assurés à vie, voilà, mais sur 20 ans. Mais lui, au moins, a accepté de venir sur le stand, alors que l'année dernière, Daniel Gilbert a eu très peur et a évité le stand.
Et les personnes, en général, alors les questions qu'elles posent, est-ce qu'elles sont étonnées de vous voir? Est-ce qu'elles vous le disent?
Étonnées, non, parce que la mort fait partie de la vie. Par contre, elles vont venir pour des questions souvent pertinentes, ne serait-ce que sur la destination des cendres. Est-ce que mes cendres, je peux les mettre là? Est-ce qu'on a le droit de garder les cendres à la maison? Alors non, il y a une loi qui est sortie en 2008, il faut leur expliquer. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Il y en a d'autres, ça va être carrément, moi je laisse ça à mes enfants. Et non, le but d'un contrat prévoyance, c'est justement de dégager nos enfants de tout souci. Ils auront la peine et c'est largement suffisant.
Et vous-même, qu'est-ce que vous tirez comme expérience de la foire exposition de Sisteron?
Moi, c'est un plaisir parce qu'étant cisteronaise, c'est quand même l'occasion de rencontrer beaucoup de gens que je connais, de revoir des clients qui nous ont fait confiance. C'est une relation d'amitié. Les clients qui nous amènent des amis. Parce que quand ils sont satisfaits, forcément, on va parler de nous en bien. Et je crois que dans ce domaine-là, la plus belle des publicités, c'est le retour des familles qui nous ont fait confiance.
Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui s'en vont du stand? Vous dites au revoir, à bientôt, vous dites quoi?
Alors en général, ce sont eux qui me disent « je ne vous dis pas à bientôt ». Mais moi, je leur dis toujours « mais si, mais dans d'autres circonstances ». Parce que moi, je suis en vie. Il faut bien se dire que nous, employés de pompes funèbres, nous aimons la vie. Et pour aimer notre métier, il faut aimer la vie et les autres.
Nous sommes actuellement avec la directrice du centre municipal de loisirs ici, avec toute une équipe bien installée, il faut le dire. Bon, ça a commencé jeudi, avec bon nombre de choses que vous avez proposées sur le centre de loisirs. Qu'est-ce que vous avez proposé?
On a proposé la restauration de fauteuils, la peinture sur porcelaine. Ce matin, il y avait l'activité vitrail et cet après-midi, l'activité poterie. Demain, ça sera l'atelier sculpture et peinture qui seront là toute la journée. Avec demain matin aussi une démonstration de djembé et de danse africaine devant le stand.
Il y a un atelier là qui a été particulièrement prisé aussi, la restauration, vous voyez, sur les Voltaire.
C'est la restauration de fauteuils. Donc chacun amène l'objet qu'il veut restaurer et puis ça ressort en couleur, tout en couleur, toutes des tissus différents, des modèles différents. Voilà, et ils sont assistés par un animateur, okay. Un professionnel.
Et ce matin, c'était le vitrail qui était au programme?
C'était le vitrail, donc pareil, chacun fait l'objet qu'il désire, en vitraux, soit une lampe, soit une fenêtre, une porte, et chacun décore à son goût.
Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a la directrice, mais alors, qu'est-ce qu'elles sont disciplinées, vos élèves? C'est pas pour dire, on entend une mouche voler. Je vois l'application, je crois qu'elles sont comme ça naturellement. En même temps, il y a un travail qui est très, très minutieux, ce qu'elles font là.
Oui, tout à fait. Alors, toutes ces poteries sont ensuite peintes, elles sont cuites et elles sont émaillées. Voilà, il ressort des objets magnifiques.
Qu'est-ce qu'on a par exemple? Je peux faire le tour un tout petit peu, hein, ça ne vous dérange pas, parce que je les sens très très concentrés. Qu'est-ce que vous faites, madame?
Ce que je peux.
Ça, c'est déjà une bonne réponse au départ, vous reviendrez la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que c'est?
Un champignon.
Alors oui, c'est un très beau champignon. Pourquoi est-ce que vous êtes venue sur l'atelier, madame?
Histoire de bricoler, faire quelque chose avec les mains, et puis de touiller. En même temps, mais...
Oui, il y a un contact aussi avec l'argile qui est quand même, je pense, très agréable. J'ai l'impression que c'est très personnel, vous savez, le contact avec l'argile.
Ça déteint, oui.
Vous étiez tendu avant de venir, vous étiez tendu?
Avant, oui. oui, très.
Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que là, visiblement, ça a fonctionné.
Un porte-savon. Sinon, j'ai fait des statues, j'ai fait plusieurs choses.
C'est pas évident de faire des statues quand on...
C'est la dame qui m'a aidé.
Donc, madame vous a aidé, vous êtes venu à la poterie, vous, votre raison?
Pour faire une activité et voir du monde, et voilà.
Oui, mais la poterie, voilà, vous auriez pu prendre autre chose.
Non, la poterie, ça, j'ai essayé, ça m'a vraiment très plu, donc j'ai pris ça.
Franchement, très joli, hein. Vous allez l'emporter chez vous après?
Oui, je vais l'emporter chez moi et vendredi prochain, je le porterai pour le faire cuire.
Parce qu'après, voilà, il y a tout un processus, hein, tout un circuit. Hein,
c'est... Que ça sèche bien, après on le fait cuire et après on l'émaille.
Son prénom c'est
Zora.
Zora. Alors je suis avec Zora. Zora, je vais essayer de ne pas effleurer votre travail parce que c'est très beau ce que vous faites. Là, c'est une fontaine, visiblement, avec des oiseaux.
C'est bien ça. Oui.
Alors là, vous avez travaillé combien de temps dessus? Vous êtes en train de polir?
J'ai commencé à faire le petit oiseau un peu ce matin. Mais après, j'y suis arrivée ici, j'ai assemblé tout. Voilà, j'étais ici vers 14h. Et là, dans l'après-midi, elle est finie.
Nous sommes là, je vais essayer de rien toucher. Quels sont les conseils que vous donnez, disons, aux personnes qui sont profanes, qui arrivent pour la première fois?
Ben, d'oser, d'essayer et de venir à toutes les activités qui sont proposées. Il n'y a pas de problème de venir essayer au moins une fois et de faire le choix.
Par exemple, quand on travaille sur une fontaine comme celle-ci, sur un porte-savon, sur un champignon, qu'est-ce que vous donnez comme conseil pratique?
Alors, moi, je ne peux pas donner de conseils pratiques parce que ce n'est pas moi qui pratique en général. Il y a une animatrice à chaque atelier. À chaque atelier, il y a des animateurs passionnés et de grands talents qui donnent leurs conseils.
Mais écoutez, un grand merci et je vous dis à très très bientôt alors.
Hein. Des délices d'Isabelle. Voilà.
Foie gras, confit oie et canard.
Voilà, ouais. Voilà.
Et alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous stockez pour l'hiver ou toute la saison?
Jusqu'à la saison prochaine.
Qu'est-ce que vous pensez en général de la foire exposition de Sisteron?
J'adore la foire exposition de Sisteron, je viens tout le temps. Je viens voir les différents comités de jumelage et puis j'aime bien faire un tour sur la foire exposition.
Alpes Borasso à Luz, c'est une belle aventure qui traverse le temps, Alpes Borasso, ça fait combien de temps?
La société a plus de 81, la création de l'entreprise par la famille Borasso à Laragne. Depuis le début Laragne et bon là ça a changé de propriétaire il y a une petite dizaine d'années et on essaie de perdurer dans le temps en essayant de garder le même sérieux que l'entreprise Borasso, qui a toujours eu l'entreprise Borasso. Tout ce qui est fermeture de l'habitat, donc on est une enseigne Solabé qui fait partie d'un réseau de fabricants de menuiserie et nous sommes aussi spécialistes maintenant dans l'aménagement extérieur, donc tout ce qui est véranda, pergola, pergola bloc climatique, abri de piscine, carport également, tout ce qui est en lien avec l'aménagement de l'habitat.
Les personnes posent des questions, comment ça se passe?
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs sur le stand on a quand même pas mal de roll-up, pas mal de visuels pour générer quand même un petit peu d'envie chez le client. Et en général, on vient surtout nous poser des questions sur la faisabilité de certains projets. Donc qui impose une visite sur place, où on est obligé d'être un petit peu technique. Voilà, on apporte aussi notre savoir-faire, on est là pour conseiller, et si les gens travaillent avec nous, c'est encore mieux.
Je vois de superbes poignées que vous avez là, alors nous sommes dans quel matériau là?
En menuiserie, en général, il y a quand même trois matières qui prédominent, hein, PVC, aluminium, bois, et on peut aussi mélanger les matières en faisant des menuiseries mixtes. Donc autant bois alu extérieur, PVC alu, ou soit alu alu. Nos clients savent qu'on vient. Donc viennent nous rendre visite, même déjà pour dire bonjour. Donc on garde ce contact humain, de proximité. Voilà, tant qu'on pourra, on viendra.
C'est comme si tu étais une petite poupée. Une belle poupée toute molle, toute en mousse. Mais ta tête, elle est vraiment très lourde. Très, très lourde. Et dans quelques instants, tu vas t'endormir. Lorsque je vais dire 3, tu vas dormir profondément. Je vais te rattraper et tu vas voir, c'est comme si tu étais dans ton lit. 1. Tu te sens merveilleusement bien. Avec le 2, tu sens ton corps devenir lourd. Tu vas plonger dans le sommeil. Tu vas pouvoir rêver. 4, tu te sens très bien. Prends une grande respiration. Et 1, 2, 3, je suis dormi. Ça fait rêver les parents. Hein. Au compte de 3, tu vas pouvoir te réveiller, te sentir très très bien. Et tu vas pouvoir retourner voir maman. On se sent merveilleusement bien. 1, 2, 3, on s'éveille maintenant.
Je suis avec un personnage étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis avec Shark et depuis ce matin, je le vois évoluer. Vous êtes un hypnotiseur. Alors au début, je me suis dit, c'est du spectacle. Spectacle, c'est pas péjoratif. Hein. C'est du spectacle et on joue le jeu. Pas du tout. C'est du spectacle et les personnes sont réellement hypnotisées pour la plupart. Hein, parce qu'il y en a qui sont un peu réfractaires, on va dire, mais vous allez nous expliquer pourquoi. Et les personnes font exactement ce que vous leur demandez de faire et ils sombrent dans une inconscience qui est assez époustouflante. C'est comme ça que ça se passe?
Alors oui, c'est tout à fait ça. Donc là, justement, sur la foire, je venais avec les gens qui voulaient tester, qui voulaient essayer de voir quels étaient les pouvoirs de l'hypnose. Alors forcément, on a eu des gens réfractaires, mais pour ma part, ce sont presque les meilleurs sujets. Parce qu'au niveau de leur cerveau et de leur conscience, ben, il n'y a pas de blocage. Parce que finalement, d'être réfractaire ou d'être sceptique, ben, le cerveau se dit et si ça marchait ? Et du coup, il n'y a pas de blocage et ça passe tout seul. Donc, ce sont mes sujets préférés. Après, là, au niveau des suggestions, bah, justement, j'étais là pour la découverte du cerveau, leur montrer que, bah, bien qu'ils entendent, qu'ils soient conscients de ce qui se passe, bah, c'est moi qui gère. Et que justement, pour, par exemple, j'ai fait beaucoup d'oubli de prénoms. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont oublié leur prénom sur la foire.
Et oublié de compter, c'est ça qui m'a époustouflé aussi.
C'est ça, voilà. Oublier quelque chose qu'on connaît depuis l'enfance, compter au moins jusqu'à 10. Et bah, y a des gens qui ont oublié le chiffre, qui ont oublié des chiffres entre. On a même pu en rajouter d'autres, d'oublier par exemple le chiffre 5 et on rajoutait un mot entre pour que ce soit un nouveau chiffre et que ça passe nickel jusqu'à 10.
Alors moi j'ai remarqué hein, lors d'une de vos prestations, vous étiez en train d'endormir une personne et c'est celle d'à côté que vous avez voulu endormir en fait. Et d'un seul coup vous êtes tourné vers elle et vous l'avez endormie.
Alors voilà, c'est ça. Donc ça c'est une autre partie de l'hypnose du coup qu'on appelle l'induction flash et instantanée ou l'hypnose impromptue partout, n'importe où, n'importe quand. Et qui parfois, cette personne, elle était en train de regarder les gens qui se sont fait hypnotiser. Donc elle s'est auto-conditionnée sans le vouloir. Donc, il m'a suffi juste de capter son subconscient pour la faire partir instantanément sans avoir besoin de, bah, de lui faire de grands discours comme j'ai pu faire aux autres personnes.
Shark, comment est-ce qu'on devient hypnotiseur ?
Alors, on ne le devient pas, on le sait. Et après, on va dire que c'est un domaine où il y a énormément de travail sur soi. Alors, pour ma part, c'est une passion. C'est mon quotidien jour et nuit. J'en ai même fait... mon métier le jour, parce que je suis hypnothérapeute, donc je vis hypnose jour et nuit. Alors j'ai le côté thérapeute où je m'occupe de tous les problèmes des gens, de leur vie. Et puis bah, comme là, aujourd'hui sur la foire, où bah, je suis là pour leur montrer qu'on peut rire, profiter de l'hypnose et surtout le bien-être de l'hypnose. Parce que même si bah, on perd entre guillemets un peu le contrôle, ça fait énormément de bien.
Non, voilà, vous ne vous déchargez pas hein, systématiquement. Vous me disiez, vous sortez rechargé de ces séances. Hein.
Alors c'est ça parce que j'ai la chance d'être réceptif à ma propre voix. Donc plus je vais hypnotiser les gens et plus je vais avoir d'énergie. Il se peut arriver, comme là par exemple sur une journée, bah, qu'arrivé à la fin de la journée, j'ai bien plus d'énergie que quand j'ai commencé ma journée. Tout simplement parce que bah, d'avoir hypnotisé les gens, de l'avoir fait à maintes reprises, eh ben, pour moi, en fait, j'ai fait plusieurs fois l'induction de détente. Et j'en prends pour moi aussi.
Vous écoutez, bon, c'est passionnant, vous voir faire, c'est envoûtant même aussi. Mais à la limite, on se dit, mais si Shark n'était pas sympa, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Parce que ça peut aller très loin, l'hypnose, alors, à ce moment-là. Parce que vous prenez vraiment le dessus sur le moi personnel, le jeu.
Bah, c'est ça, c'est pour ça qu'au niveau de l'hypnose, ou même de l'hypnothérapie, on peut faire de mauvaises choses entre de mauvaises mains. Parce que ça reste un domaine très puissant. Où on peut éventuellement, ne serait-ce que bloquer une personne. Il y a de nombreuses personnes que là, je les ai arrêtées dans les allées de la foire, où ils étaient incapables de marcher, ou que je les ai endormis et je les ai laissés endormis dans cette position. On peut très bien leur vider les poches et je m'en vais. Je peux leur effacer la mémoire. Donc, en plus de ne pas se souvenir ce qui s'est passé, leurs jambes sont bloquées, ils ne peuvent pas avancer et ils ne se souviennent plus. Donc, effectivement... Cet outil entre de mauvaises mains, on peut faire de mauvaises choses.
Tous ceux qui nous écoutent doivent se dire « Mais maintenant, on veut voir !» Mais justement, ça tombe bien parce qu'il est 17h10 et dans un instant...
Eh bien, ça va être le spectacle. Il va falloir se rapprocher sur l'esplanade centrale pour faire venir le maximum de monde. Je vais faire un test collectif. Donc là, je vais faire tout le public d'un coup pour voir les personnes les plus réceptives à ma voix. Et ensuite, on va faire le spectacle voilà, qui devrait me rester. Alors, suivant les gens qui vont être là ce soir pour venir nous voir à 17h30, entre 10-15 personnes que je vais leur faire vivre l'expérience collectivement. On va faire des suggestions collectives, des choses individuelles par petits bouts et vivre voilà, une expérience grand format avec des choses bien plus intéressantes.
J'ai remarqué que le contact avec les mains est important. Vous tenez les mains des personnes qui sont là.
Alors ça me permet. Alors ça c'est le côté un peu thérapeute. Ce qui me permet par exemple de gérer si je sens des petites tensions, ça va me permettre de savoir un petit peu à l'avance. Bah, si la personne va se détendre ou s'il va falloir que je la détende moi-même. Donc effectivement, c'est en vrai, ça ne sert pas à grand-chose. À part éventuellement gérer mes réflexes, si la personne vacille d'un sens ou dans un autre, tenir au niveau des poignets, ça me permet un bon équilibre. Mais ça me permet voilà, de savoir où se sent la personne au niveau de sa détente.
Merci infiniment, Shark. Et croyez-moi, vous allez vraiment être étonné tout à l'heure. Merci, Shark.
Merci à vous.
Michael Stunt, pour vous définir, vous êtes un pilote, c'est certain. Vous faites quoi ?
Donc je suis pilote d'acrobatie moto, donc en anglais c'est stunt. Ça consiste à faire des figures sur la roue arrière. Donc c'est appelé wheeling en circle, circle no hand, beaucoup de figures qui existent. Après il y a les stoppies. Donc les stoppies c'est un blocage de roue avant pour faire la longueur que sur la roue avant. Et puis après on retrouve quelque chose qui n'est pas forcément bien connu depuis longtemps. Donc c'est le drift. Le drift à moto qui se faisait beaucoup connaître grâce au pilote Ken Block et beaucoup d'autres pilotes. Et là maintenant ça fait un petit moment que c'est passé sur les motos.
Michael, vous avez entre les mains des motos super puissantes, des CBR 600, CBR 1000 également, c'est extrêmement puissant et vous évoluez sur des distances courtes là pour les démonstrations auxquelles nous venons d'assister. Il faut une sacrée non seulement anticipation mais une maîtrise complète de la machine.
Alors oui, là c'est un peu court, il doit y avoir 50 mètres de longueur sur 6 mètres de large. Après c'est un peu petit pour faire de la vitesse, mais après pour faire du surplace, des circuits et tout, ça suffit amplement.
Vous avez improvisé aussi un tremplin, vous descendez dans le garage d'un hôtel-restaurant et vous remontez en faisant un saut carrément en tremplin et vous arrivez à la distance du public en freinant très rapidement. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez, que vous sortez du garage en fait ?
Ah ben, je vois le public qui est content, la moto qui est plus sur aucune roue en fait, elle décolle complètement. Et après ça c'est très rare, c'est la première fois que je tombe sur un show où c'est que j'ai droit à une sortie de garage avec un tremplin, donc c'est juste énorme en fait.
Au niveau donc de la conduite de la moto, vous êtes vraiment un as, vous épatez tout le monde, vous faites des figures, on a l'impression que vous évoluez parfois sur de la glace ou sur de la neige.
Alors ça dépend, ce matin c'était mouillé donc c'était très très dur, ça glissait beaucoup. Là c'est un peu plus sec donc j'ai pu faire un peu plus de trucs vu que les pneus adhèrent plus. Moi ça fait depuis 2012 que je fais de l'acrobatie moto. Je sais plus combien j'ai fait de shows, j'ai fait deux compétitions, j'ai fini deux fois deuxième. Donc ça fait un moment que je fais du stunt et que je commence à me faire connaître un peu dans toute la France.
Le stunt, cette puissance, il faut la canaliser en même temps, parfaitement bien la connaître. Quand vous faites du surplace sur une roue, en même temps sur un pied et parfois debout sur la selle aussi.
Alors là, c'est tout un travail d'équilibre. Il n'y a que ça à dire, c'est un travail d'équilibre, c'est de l'entraînement 2-3 heures tous les deux jours. C'est ce que je fais à peu près, je m'entraîne tous les deux jours chez moi. Et oui, c'est vraiment beaucoup d'entraînement en fait. Ça sent, comme on dit souvent, on n'y arrivera pas sans entraînement.
Vous avez une façon d'analyser très rapide, c'est ce que j'ai vu. Vous arrivez sur les barrières, vous arrivez à quelques centimètres des barrières, vous tournez, vous passez près du public, vous arrivez à freiner instantanément et vous freinez sur une roue, sur la roue avant, la roue arrière se lève.
C'est tout à fait ça. En fait, à force de faire de la moto avec mes motos, donc on les connaît, on sait la puissance de freinage qu'il y a, on sait la puissance d'accélération, on sait quand elle va se lever, quand on la connaît en fait. On la connaît par cœur. Moi, ça fait 3 ans que j'ai mon 600 CBR. Ça fait très longtemps que je ne suis pas tombé avec. Tombé, je parle de grosses chutes. Après, des glissades, des petits... Il y en a un petit peu, évidemment. Mais après, oui, ça fait très longtemps que je la connais, celle-là.
Michael Stunt, chez vous, les pneus, la gomme, ça fait pas long feu, hein ?
Non. Un pneu, si le temps est sec, ça fait un chaud. Après, souvent, là, comme là, j'ai prévu 8 pneus à peu près pour la journée. Donc ce matin, il y avait de la pluie, les pneus ne s'usaient pas. Là, c'est plus sec, les pneus, ils pètent. Donc, ouais, j'en prévois pas mal.
Il y a les burns que vous faites et puis l'explosion du pneu que vous voulez aussi, vous l'avez désiré à un moment donné.
Bah alors pour moi, l'explosion du pneu, c'est pour remercier le public. C'est parce que tout le monde aime ça, un pneu qui explose avec de la fumée et tout, c'est juste énorme. Et moi, ça me fait autant plaisir.
Une belle condition physique aussi parce que vous prenez énormément dans les abdos et puis les avant-bras aussi, les freinages, les accélérations.
Alors moi je fais pas de sport à côté mais le fait que je m'entraîne tous les 2-3 jours ça fait du sport aussi. Après oui là je commence des fois, je fatigue un peu sur la frein arrière parce qu'il est pas souple en fait. Il est vachement dur du coup ça me fatigue vachement la main. Mais sinon à part ça j'ai une condition normale.
Et une conduite j'allais dire entre guillemets normale aussi sur la route parce que là nous sommes dans une démonstration, nous sommes dans un show.
Alors oui, sur la route, j'ai une conduite normale. De toute façon, je roule en 125 ou en 500 R5. Du coup, c'est plus tranquille puisqu'il y a le permis en jeu, il y a le boulot qui joue avec le permis et tout. Donc, on y va tranquille et on se défoule sur les pistes et sur les shows, les spectacles, les compétitions.
Quand vous travaillez avec Delphine, c'est votre partenaire. Alors là, c'est encore autre chose parce qu'avec Delphine, eh bien, elle monte sur la moto, mais pas d'une façon vraiment ordinaire.
Voilà, donc Delphine, ça fait un an et demi que c'est ma femme. On s'est rencontrés grâce au stunt. On évolue toujours quand on s'entraîne. Et du coup, ben, on s'améliore, et on fait ce qu'on peut de toute façon. Et à savoir qu'on n'est que 2 ou 3 en France à faire ça, en duo, 2 sur la moto. et c'est cool. Et je laisse la place à ma chérie.
Delphine, vous êtes la chérie donc, de Michael et vous êtes la partenaire parce que sur la moto, les figures sont extraordinaires à ce que vous faites. Allez, pour ceux qui n'ont pas l'image, dites-nous un peu ce que vous faites sur la moto en tant que passagère.
Alors, généralement, Michael commence par tourner autour de moi. Moi, je suis au sol, il tourne autour de moi sur la roue arrière. Je monte sur la moto en marche, donc je me retrouve debout sur la moto, face à la route, face au public.
Vous glissez entre le pilote et la machine, hein, c'est exceptionnel.
C'est ça, exactement, je me faufile. Donc ça, c'est pareil, c'est beaucoup d'entraînement pour arriver à monter rapidement, parce qu'il ne faut pas que ça le déséquilibre trop non plus. Alors, il y a eu beaucoup de chutes avant d'y arriver. Une fois que je suis debout sur la moto, je peux proposer différentes choses. Parfois, je me tourne pour me retrouver face à Michael, donc toujours lui sur la roue arrière. Je vais sauter sur le réservoir pour m'asseoir les jambes écartées, redescendre, glisser sur la selle. Donc voilà, le but, c'est d'évoluer, de faire le plus de figures possible pendant que Michael est sur la roue arrière en train de tourner, et moi, je gigote autour.
Vous gigotez enfin, d'une façon très élégante. On dirait que vous êtes une patineuse artistique quand vous évoluez entre le pilote et la moto.
Ah, c'est un joli compliment.
Les impressions, les émotions que vous avez, parce que quand vous plongez par exemple dans le garage qui est en descente raide avec la moto, dans ces figures aujourd'hui, hein, ici à Sisteron, qu'est-ce que vous éprouvez, vous qui êtes habitué quand même?
Alors, il y a une figure particulièrement qui génère beaucoup d'émotions, on va dire, c'est le stoppie. Puisque donc le stoppie, je suis assise face à Michael, donc je suis assise sur le réservoir, je suis couchée sur le réservoir, j'ai les jambes qui lui en serrent la taille, et donc il vient freiner de l'avant en levant la roue arrière. Et en fait, cette sensation de voir d'un coup le ciel, et puis la moto, plus elle penche, plus je vois le ciel, et après je vois le public, la tête en bas, voilà, ça c'est une sensation, c'est difficilement descriptible, c'est beaucoup d'adrénaline, puis c'est beaucoup de bonheur, à chaque fois il pourra vous le dire, je suis morte de rire dans le casque, parce que ça me régale, j'adore.
C'est ce qu'on disait avec Michael. Les personnes également qui vous connaissent me disent, Michael et vous, vous vous éclatez.
C'est ça. Je crois que, en fait, tant qu'on s'amuse, on progresse et puis tant qu'on prend du plaisir, c'est ce qu'il faut. Le jour où on s'ennuiera en fait sur la moto, il faudra qu'on passe à autre chose.
Léo, vous étiez l'animateur de ce show freestyle avec du vélo trial. Et c'est vrai que l'ambiance, il faut la mettre, il faut constamment faire monter la pression avec le public. Et c'est pas évident, ça.
Oui, c'est pas évident. Il faut tenir le rythme, il faut tenir le rythme de Loris. Et puis, il faut surtout que les gens puissent motiver Loris, parce que c'est ça aussi qui va lui donner envie de faire des figures toujours plus impressionnantes. Et du coup, on monte crescendo dans le show. Et bah voilà, on essaye de faire motiver le public au maximum.
Mais là, je dois dire que vous êtes complètement dans le show, vous aussi. On a l'impression que vous êtes sur le vélo, en fait. Vous êtes avec lui dans la tête.
Et bah, en fait, je suis comme un chef d'orchestre, en fait. Je suis là pour le contrôler dans le show. Et c'est-à-dire que c'est moi qui vais lui dire, bah, à un moment donné, tiens, est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais faire ci? Puis on monte crescendo. Parce que si je laisse Loris faire tout seul, bah, lui, il va s'emballer et il va faire le tricks final directement. Ça porte, en fait, ça s'amène, tout ça.
Vous le canalisez en même temps aussi, quand même, un tout petit peu. Et j'ai remarqué que vous aviez parfois, de toute façon, des émotions. Est-ce que vous avez chaud pour lui aussi?
Oui, ça arrive. Des fois, bah, que ce soit Loris ou d'autres pilotes, parce que je le fais aussi avec d'autres pilotes, des fois, ils nous font peur. Et bah on essaye de canaliser tout ça et de pas forcément le montrer au public, mais de montrer aussi que c'est difficile au public. Et voilà, on le canalise quoi, au maximum.
Merci Léo. Loris, vous êtes impressionnant. Le public était là, était vraiment étonné, ébahi en fonction de vos figures. Est-ce qu'il est permis de temps en temps, sur un spectacle comme celui-ci de freestyle, d'improviser?
Oui, tout à fait. Bah, c'est l'essence même de notre discipline parce que nous, de base, on évolue dans la rue, donc on fait avec ce qu'on a un peu autour de chez nous, donc ça va partir du trottoir, au mur, tout ça. Et c'est vrai que même si on a des structures adaptées pour nos spectacles, on vient toujours rajouter une petite pointe de technicité par-ci, une nouvelle figure par-là. Et quand on est poussé par les gens, bah, on vient toujours à innover pendant le spectacle. Donc oui, l'impro, c'est vraiment très présent dans nos spectacles. Ouais.
Au final, il y a eu une figure exceptionnelle. Vous êtes un des rares à pouvoir la faire. Il s'agit de...
Du backflip, oui. Surtout que là, on a un setup qui est assez particulier. En fait, c'est une rampe qui est très basse, donc on appelle ça un mini kick dans le milieu, c'est-à-dire que c'est une toute petite rampe. On n'a pas de réception derrière, c'est-à-dire qu'on va se reposer directement à plat sur le sol. Et en fait, il faut tourner très rapidement, mais pas trop non plus pour pas raser la tête sur la rampe. Donc c'est une des figures les plus entre guillemets techniques de notre show.
On peut traduire ça en saut périlleux ?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, le backflip, c'est la dénomination anglaise pour les saltos arrière en vélo.
Qu'est-ce que vous pensez alors de la foire exposition, l'ambiance qu'il y a eu et puis votre prestation ? Parce qu'après, vous recommencez. Là, c'est pas fini, vous allez recommencer après.
C'est ça, tout à fait. Du coup, on recommence à 16h30 avec un nouveau concept. Et en fait, moi, ce que j'adore à travers la foire, c'est que c'est très convivial, très familial, donc on est à proximité des gens. On n'a pas de barrière du coup autour du show. Enfin, du coup, on peut aller un peu titiller les gens, faire participer aussi le public à la prestation. Et c'est vrai que d'avoir cette proximité, ça rajoute un dynamisme et même un encouragement supplémentaire pour nous, vu qu'on voit vraiment les réactions des gens en direct.
Merci infiniment, Laurie. Un grand bravo encore.
Merci à vous.